Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître. Le grand soir du mardi reçoit aujourd'hui Olivier Poche, qui va nous parler d'un livre qui vient de paraître aux éditions Adespot. Ce livre est intitulé « Les médias contre la rue, 25 ans de démobilisation sociale ». Ce livre est publié par l'association Acrimed, Action Critique Média. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Ce livre est le produit d'un long travail collectif auquel tu as participé.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes activités ?
Eh bien, je suis co-animateur de l'association Acrimed, Action Critique Média, depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc, au sein de l'association, je participe à la rédaction des articles, à leur rédaction souvent collective d'ailleurs. Et pour ce livre, j'en ai coordonné la rédaction, parce qu'effectivement, c'est le fruit d'un travail collectif qui a mobilisé une partie de l'équipe d'Acrimed. Donc, j'ai coordonné l'ensemble de la rédaction du livre.
Merci. Dans ce livre, l'association Acrimed dresse le bilan de 25 ans d'observation des pratiques médiatiques face aux réformes institutionnelles et aux mouvements de protestation sociale. Le résultat est sans appel. La critique, précise, rigoureuse, s'appuyant sur la sociologie et l'économie, montre les mauvais traitements médiatiques infligés aux mouvements sociaux et leurs actes infligés aux mouvements sociaux, à leurs acteurs et aux revendications qu'ils portent, et montre aussi la violence des rapports sociaux. Acrimed a mis en exergue dans son livre une citation de Gilles Deleuze, je cite, « Aucun livre, contre quoi que ce soit, n'a jamais d'importance. Seuls comptent les livres pour quelque chose de nouveau et qui savent le produire. » Olivier, en quoi ce livre produit-il quelque chose de nouveau?
Alors, c'est pas pour me défausser, mais la citation en question, c'est de la responsabilité de l'éditeur. Qu'est-ce qu'il peut produire de nouveau? C'est un peu paradoxal pour ce livre, parce que s'il cherche à produire quelque chose de nouveau, il le fait d'abord avec de l'ancien, puisqu'on a mobilisé nos archives sur 25 ans. Alors, je ne sais pas s'il peut produire quelque chose de nouveau dans le paysage médiatique, j'ai un peu de mal à y croire. S'il peut produire une prise de conscience chez certains, ça sera déjà pas mal.
L'association Acrimed a été créée en 1996. Qu'est-ce qui a motivé sa création au départ ?
Donc l'association s'est fondée effectivement dans la foulée du mouvement social de novembre-décembre 1995 contre le plan Juppé. Il y a eu un certain nombre d'acteurs, d'intellectuels qui ont signé un appel à la solidarité avec les grévistes. Et dans la foulée de cet appel, un peu plus tard, en mars 1996, une partie des signataires de cet appel ont rédigé un nouvel appel pour une action démocratique sur le terrain des médias. Mmh. Et c'est cet appel-là qui a donné naissance quelques temps plus tard à l'association, qui s'est constituée au départ comme un observatoire des médias, visant à réunir des chercheurs, des étudiants et des acteurs des mobilisations sociales.
Depuis 25 ans, Acrimed a analysé les réformes institutionnelles et les mouvements sociaux qui se sont succédés, et la liste est très longue. Nous n'allons pas parler vraiment de ces réformes successives. Et du coup, il m'a semblé important pour les auditeurs d'en dresser la liste, de façon à savoir exactement de quoi nous parlons. Alors, vous avez travaillé donc sur les réformes successives, je les énonce un petit peu. Les réformes des retraites et des régimes spéciaux de Chirac, Sarkozy et Macron. Les réformes du statut des intermittents de Chirac. Le contrat à première embauche de Villepin, la réforme des universités de Sarkozy, la réforme de la SNCF ou les réformes de la SNCF de Hollande et de Macron, la loi travail de Hollande ou encore les mouvements écologiques et sociaux comme un travail sur Greta Thunberg, MeToo et Balance ton porc, les mouvements sociaux dans les cités, les gilets jaunes et j'en passe. Vous écrivez dans cet ouvrage, nos 25 ans d'observation nous permettent de poser un diagnostic relativement précis sur la façon dont les médias dominants couvrent, et vous mettez RE entre parenthèses, redécouvrent, et traitent, maltraitent un mouvement social. Certes, il y a des nuances, des ajustements, des variations d'un média à l'autre, d'une mobilisation à l'autre. Mais il y a aussi des invariants massifs et des tendances lourdes. C'est précisément sur ces invariants et sur ces tendances lourdes que je propose d'orienter le débat. Donc, il s'agit toujours, écrivez-vous, d'ignorer, de minorer le mouvement social, puis de l'ausculter, de poser un diagnostic, de pronostiquer, hein, ce sont les termes d'Acrimède, et il s'agit ensuite de siffler la fin de la récré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule ce processus ?
Alors, ce processus, en fait, donc là vous faites référence à l'introduction du livre, hein, qui est en fait un texte un peu synthétique, qui essaye de dresser la liste des différents procédés, des pratiques médiatiques qui conduisent à couvrir ou recouvrir un mouvement social, à le traiter ou à le maltraiter. Donc c'est le terme de processus indiquerait qu'il y a une sorte de feuille de route écrite à l'avance que les journalistes suivraient. Alors c'est pas tout à fait ça qu'on essaye de dire. On l'a présenté comme ça pour la facilité de la démonstration, mais en fait c'est un ensemble de procédés qui se déroulent pas nécessairement dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que ignorer le mouvement social c'est pas nécessairement au début et siffler la fin de la récré c'est pas non plus nécessairement à la fin, c'est même souvent dès le début. Les médias dominants sont très attentifs à guetter et à mettre en exergue les signes de l'essoufflement d'un mouvement, par exemple. Ça, on a fait des articles là-dessus pour précisément chercher à partir de quand un mouvement s'essouffle d'après les médias dominants. On s'aperçoit qu'ils ont, généralement ils s'essoufflent dès le départ ou au moindre signe de baisse de la mobilisation. Qu'on évalue d'ailleurs avec les chiffres généralement de des directions des entreprises concernées ou les chiffres officiels qui sont plus facilement mobilisables pour diagnostiquer un essoufflement.
Quelle est la fond, parce que en fait ce que vous expliquez dans le bouquin c'est que cet essoufflement en fait n'est pas réel. En fait, il est créé par il est présenté par les journalistes, par les médias, sans que réellement il soit réel sur le terrain, enfin, sans qu'il soit vraiment acté sur le terrain, en fait. Quel est le but de cette stratégie d'essoufflement ?
Le but, c'est difficile de parler de but. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que le résultat c'est surtout le résultat qui importe. C'est-à-dire qu'on prétend montrer que ce mouvement n'a pas d'intérêt ou n'a pas de force. Et d'autant plus, on observe son essoufflement. Parce qu'on l'observe d'abord à travers des critères qui sont falsifiés dès le départ, c'est-à-dire essentiellement les chiffres des manifestations. Or, on sait que ces chiffres sont précisément sujets à beaucoup de controverses. Donc, en fait, les médias dominants qui ne sont pas sur le terrain, c'est-à-dire que précisément ils ne sont pas en mesure de mesurer l'essoufflement parce que ils ne le connaissent pas en fait. Ils s'y tiennent à distance et ils regardent les chiffres de la mobilisation d'un mardi à l'autre. Et puis si jamais le ministère a décidé qu'il y avait 100 000 manifestants en moins, ça suffit à décréter l'essoufflement du mouvement. Donc, c'est difficile de parler de stratégie ou d'objectif Parce que ça suppose que ça suppose des intentions, alors que dans la plupart des procédés, des pratiques médiatiques qu'on met en évidence, il n'y a pas besoin de mobiliser l'intention de celui qui pratique justement ce genre de journalisme. Il fait ce qu'on lui demande, il fait ce qu'il a appris à faire dans les écoles de journalisme. Et je pense que la plupart des pigistes, des journalistes de terrain qui vont faire des micro-trottoirs n'ont pas l'intention, ni même le sentiment, de participer à ce qu'on a appelé la démobilisation sociale.
Est-ce qu'on peut parler de désinformation ?
On peut parler de désinformation. Après, voilà, la limite, c'est de savoir à quel point elle est intentionnelle. Et même dans les chefferies éditoriales, on peut difficilement imaginer. Il n'y a pas besoin de donner des ordres pour maltraiter un mouvement social, pour le délégitimer, pour
justement. Comment procèdent les médias pour délégitimiser justement les mouvements sociaux, puisque c'est récurrent, c'est ce que vous montrez dans votre livre.
Alors, il y a tout un ensemble de pratiques médiatiques qui conduisent à cette délégitimation, sans nécessairement le vouloir. Quand on couvre un mouvement social en se contentant d'arpenter les couloirs du métro ou les quais des RER en panne ou qui ne roulent pas à cause des grèves, quand on se contente d'interroger les voyageurs pour leur demander si vraiment la grève c'est compliqué, c'est à quel point ça leur pose des problèmes. Voilà,
c'est-à-dire en fait les médias mettent l'accent sur les effets négatif de la grève, en particulier sur les usagers. Et en fait, on se rend compte, à la lecture de votre livre, à quel point cette méthode, cette approche, ce procédé est récurrent, en fait. Donc, on présente toujours, en fait, les malheureux voyageurs qui ne vont pas pouvoir prendre le train, etc. Donc, on parle toujours des effets, mais on ne parle jamais des causes.
Jamais des causes. On parle des effets pour éviter de parler des causes. C'est effectivement un des éléments les plus visibles, en tout cas à la télévision, notamment dans les JT. On s'est amusé à comptabiliser le temps d'antenne consacré au mouvement social, enfin à tel ou tel mouvement social dans un JT, et on s'aperçoit que 90% du temps, et encore c'est peut-être un chiffre un peu faible, est consacré précisément, non pas à parler de la grève, mais à parler des effets de la grève sur telle ou telle catégorie de la population. Alors là, on déploie des trésors d'imagination pour trouver le témoignage de telle personne qui ne va pas pouvoir aller chercher ses enfants, etc. Bon, voilà.
D'ailleurs, pardon, Olivier, oui. Mais effectivement, les journalistes font même appel à témoignages. Oui. C'est ça, en fait. J'ai vu ça dans le livre.
Oui, il y a un petit encadré. Ça, c'est assez nouveau, du coup. C'est la magie de Twitter et des réseaux sociaux. Les journalistes peuvent utiliser maintenant ces réseaux sociaux pour solliciter des témoignages. Alors là, c'est tout à fait cadré. On recherche une mère de famille qui, à cause de la grève, aurait eu tel ou tel problème. Et on sollicite directement... On n'a plus besoin d'aller sur les trottoirs du RER arrêtés. Maintenant, on peut les solliciter, les témoignages, directement sur Twitter.
Alors, vous donnez aussi... vous parlez aussi de la violence des images, en fait, qui sont diffusées, et du discours tenu sur, justement, les effets négatifs de la guerre, de la grève. Vous voyez, je fais un lapsus. Par exemple, on utilise des mots bien particuliers, qui sont récurrents, qui apparaissent toujours, puisque votre travail est ponctué de citations de journalistes, de chroniqueurs, etc. Et en permanence, ça revient. Alors, c'est là que on voit à quel point cette approche est la mieux partagée, je dirais, par l'ensemble des médias. Il parle de galères, il parle de chaos, il parle toujours des jours noirs, des jours de grève. Donc, c'est extrêmement intéressant, en fait. Ce travail qui est sur 25 ans permet de voir, en fait, que finalement, vous n'utilisez pas le terme de stratégie, mais il y a quand même derrière une idéologie.
Oui, voilà, c'est une idéologie qui s'exprime, mais précisément, le propre de l'idéologie, c'est que celui qui la porte n'a pas le sentiment de faire de l'idéologie. Donc... Mais effectivement, alors vous me disiez en introduction qu'est-ce que ça produit de nouveau. Alors je ne sais pas ce que ça produit de nouveau, mais ce qu'on essaye de faire, qui est peut-être un petit peu effectivement original, c'est cette volonté d'archiver la parole médiatique, qui est un flux continu et qui ne s'arrête jamais et qu'on oublie. Alors on peut réagir sur tel ou tel point quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, on réagit à tel ou tel reportage, à telle ou telle phrase, et puis ça passe et puis on oublie. Nous, ce qui nous paraît important, c'est de garder la mémoire précisément du discours médiatique pour en saisir précisément les constantes.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qui est magistralement montré dans cet ouvrage. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est le discours sur la question des progressistes, ceux qui sont pour ces réformes qui se succèdent, etc. Et puis les autres, comment sont qualifiés les opposants? Comment sont qualifiés les grévistes, les résistants aux réformes?
Alors, les partisans les opposants aux réformes, en général, ce sont des archaïques, des privilégiés, qui n'ont pas compris la marche du monde. C'est ça l'idéologie, c'est que justement, les médias qui soutiennent généralement les réformes ne défendent pas telle ou telle réforme, ils prennent parti pour la réforme, un synonyme du progrès.
On va en parler tout à l'heure, parce que ça me paraît extrêmement intéressant, justement, votre concept de la réforme en un seul mot. Oui. Il y a aussi cette question de diviser la population. On la divise, on cloisonne. Vous donnez l'exemple, par exemple, des lycéens. On leur dit, mais là, en fait, cette question-là, taisez-vous, ça ne vous concerne pas. Voilà.
Et
donc,
retraite,
voilà, ça, c'est très intéressant aussi. Il n'est pas possible de conduire des mouvements sociaux, par exemple, en rassemblant les forces. Les médias sont toujours en train de diviser. C'est très intéressant, cette approche-là, que vous avez développée.
C'est effectivement une constante de repérer des catégories de population qui se mobilisent, mais qui, aux yeux des médias dominants, n'ont pas la légitimité à le faire, parce qu'ils ne sont pas concernés. Donc, typiquement, les lycéens qui se mobilisent contre la réforme des retraites, ils sont au lycée. En quoi ça pourrait les concerner? Et on parlait tout à l'heure de la mise en avant des effets des grèves. Ça a aussi pour effet précisément d'opposer des grévistes à ceux qui subissent les effets des grèves. Mais on peut subir des effets des grèves tout en soutenant une mobilisation. C'est d'ailleurs en général...
Oui, mais en fait, on va sélectionner les personnes, en fait. C'est ce que vous montrez, en fait.
Les micro-trottoirs sont là pour ça. On interroge... Alors, évidemment, on a plus de chances de trouver des gens que les grèves exaspèrent sur les trottoirs d'un métro. Ça, c'est sûr. Donc, on n'a probablement pas beaucoup de tri à effectuer, mais sans doute qu'on en effectue quand même.
Il y a une question qui aussi m'a beaucoup interrogée. En fait, vous montrez que justement, les médias auscultent, diagnostiquent, pronostiquent, c'est des termes médicaux.
Oui.
Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a recours justement à une terminologie médicale?
Alors nous, on a recours dans l'introduction, c'est des entrées de l'introduction, ausculter, diagnostiquer. Si on a recours à ces termes, c'est précisément parce que ce sont les médias qui les utilisent. C'est-à-dire pas forcément le terme ausculter ou diagnostiquer, mais des termes à connotation médicale. On diagnostique par exemple un malade malaise chez les enseignants. Mm-hmm, bon, ça, mm-hmm, c'est vraiment la tarte, mm-hmm, à la crème. Hein, le blues des enseignants. Voilà, on transforme une mobilisation politique en affect. Et les éditorialistes en particulier se font fort de poser leur diagnostic sur les passions négatives qui agitent ces foules mobilisées. Parce que précisément, à leurs yeux, elles n'ont pas raison de le faire. Donc si elles n'ont pas raison, c'est bien qu'elles ont un problème psychologique.
Oui, je vois bien. Alors revenons justement à ce terme de la réforme, parce que l'univers, vous dites dans l'ouvrage, l'univers médiatique est avant tout un univers de discours dont le lexique, les règles et les dispositifs sont autant de pièges tendus aux contestataires. Et effectivement, vous citez tout ce lexique spécifique qui traverse comme ça le temps, les réformes qu'on retrouve, etc. Et qui quand même évidemment fait sens. Et il y a un mot qui m'a, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas il y en a un sur lequel je souhaitais revenir ici ce soir. C'est le mot la réforme. Mm-hmm. Donc la réforme, nous l'avons vu, la réforme de ci, la réforme de ça. Mais la particularité de votre approche, c'est que la réforme est au singulier et elle pourrait être écrite, dites-vous, en un seul mot. Alors pourquoi la réforme en un seul mot?
Alors, c'est pas notre approche. Nous, justement, on relève le discours médiatique et on relève qu'effectivement, les médias dominants, pendant un mouvement social, par exemple, et en particulier les mouvements des retraites, critiquent le refus, non pas de telle ou telle réforme, mais le refus de la réforme. Et donc, on parle plus de telle ou telle réforme, de telle ou telle proposition politique, mais d'une sorte de concept qui, en fait, empêche de penser et de prendre la mesure d'un mouvement social. Donc, on discute pas des bénéfices et des risques de telle ou telle proposition de réforme, mais on défend la réforme proposée par le gouvernement et on en fait la réforme. Mmh, c'est pour ça qu'on on propose de l'écrire en un seul mot, parce qu'elle ne correspond pas à un projet, à un texte de loi. Mmh. C'est l'opposition, c'est un synonyme de progrès. Voilà. Et donc, comment s'opposer à la réforme? De Arlette Chabot en 2003 qui propose une émission dont le titre est « Pourquoi est-il impossible de réformer la France ?»
Oui, voilà. J'ai vu ça, effectivement, dans l'ouvrage. Oui, parce que, en fait, vous expliquez que là, dans cet univers médiatique, la réforme est toujours bonne.
Oui. Les gouvernements libéraux qui se sont succédés depuis 25 ans, au moins qu'on observe les médias, sont... J'ai oublié le début de ma phrase, excusez-moi, mais...
Oui, c'est ça, parce que c'est ça, en fait. Vous expliquez que la réforme, eh bien, c'est comme ça, une sorte d'image idéologique, qu'on ne s'oppose pas à la réforme, on ne va pas contre la réforme. Si on est contre la réforme, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà. On n'a rien compris du tout. Et voilà, et donc, du coup, il va falloir éduquer, en fait. Hein, parce que ça, vous insistez beaucoup dans ce livre, sur l'infantilisation, cette propension à éduquer des foules incultes qui comprennent rien,
Faire de la pédagogie.
C'est ça, faire de la pédagogie.
Ben oui, puisque précisément, il n'y a pas de raison de s'opposer à la réforme, puisqu'elle est par principe bonne, à partir du moment où elle est proposée par un gouvernement libéral, qu'elle va dans le sens de moins d'État, moins d'acquis social.
Du progrès, l'éternel progrès.
Donc on ne saurait s'y opposer avec raison, et donc si on s'y oppose, c'est qu'on n'a rien compris. Donc, aux gens qui n'ont rien compris, il faut leur expliquer. Et il faut faire preuve de pédagogie. Et c'est à quoi s'attelle le gouvernement, évidemment, mais aussi, évidemment, de l'ensemble des éditorialistes, des intervieweurs, des animateurs qui monopolisent la parole médiatique.
Mmh. toujours au niveau du langage qui est utilisé, on retrouve beaucoup dans l'ensemble des démonstrations que vous faites, donc autour de ces discours sur la réforme, on retrouve toujours les mots de crispation, de malaise, d'égoïsme, l'individualisme, le corporatisme, l'archaïsme, la frivolité, la frilosité, le conservatisme et l'ignorance. Et c'est récurrent. Oui. Quand on lit tous les témoignages autour de... Enfin, ou plutôt toutes les phrases que vous mettez en exergue pour montrer, en fait, tout ça. C'est frappant, ça traverse toutes les réformes, et puis, en fait, il faut se protéger de ces gens-là, en fait. Ce sont des affreux, affreux personnages.
C'est le problème de la critique des médias, c'est qu'on a tendance à... Plus on en fait, et moins on les supporte. Et moins on les écoute. Mais oui, c'est étonnant de voir la constance de ces discours. On a, dans le livre, on couvre, sauf erreur, 4 réformes des retraites.
Oui. Il y en a eu 6 en tout, avec celle de 1993, voilà. C'est ça. De Balladur, non ?
Balladur 93.
Voilà, c'est ça.
Et pour chacune de ces réformes des retraites, on a resservi exactement les mêmes arguments, le même discours. C'est la seule réforme possible. Elle est urgente, elle est unique, elle est inévitable. Et c'est vraiment... là, il y en a tout dernièrement, pour la réforme Macron, on croit rêver, quoi. On nous resserre exactement les mêmes discours. On pourrait écrire les éditoriaux à l'avance, grâce à Acrimed, grâce à la matière qu'on fournit. Il n'y a pas besoin de changer une ligne. Pourtant, on avait déjà une réforme unique, urgente, inévitable en 95, mais 20 ans, 25 ans plus tard...
Les salariés en grève de la SNCF l'ont payé, le payé très cher, parce que là, le discours est particulier, vraiment, on est taxé d'égoïste, on trouve ça tout à fait anormal, qu'ils puissent bénéficier de ce qu'ils appellent les fameux privilèges, c'est vraiment... Votre livre est vraiment extrêmement bien documenté, donc ça montre ça avec beaucoup de force. Et du coup, c'est vrai que quand on est dans le bain, on va faire une petite pause, Olivier. Une petite pause musicale. Radio Libertaire, 89.4, émission Le Grand Soir du Mardi. Nous sommes avec Olivier Poche, qui est venu nous parler d'un livre publié par Acrimed, Action Critique Média, qui vient de paraître aux éditions Adespot. Le livre s'appelle « Les médias contre la rue, 25 ans de démobilisation sociale ». Alors, Olivier, nous venons de parler de la réforme, en un seul mot. Il y a aussi le discours des médias sur la méthode pour gérer la crise sociale. En quoi consiste cette méthode qui consiste à délégitimer les mouvements sociaux ?
Alors, y a déjà à propos de ce terme de méthode, il y a la façon dont les médias se focalisent sur non pas les revendications des grévistes, le fond du problème, mais sur la méthode que devrait employer le gouvernement pour parvenir à résoudre le conflit dans le sens souhaité par le gouvernement et les médias, c'est-à-dire l'imposition de la réforme. Donc, cette focalisation sur la méthode, c'est-à-dire qu'on va discuter des gestes du gouvernement, de l'ouverture qu'il montre, de la consultation très large qui a présidé à la préparation de la réforme, et se focalisant sur cette dimension-là, évidemment, on occulte, on évite de parler des véritables enjeux. Donc, il y a déjà cette dimension-là, qui est une façon de cadrer le débat, d'imposer un cadre limité à la façon dont le gouvernement devrait agir pour mener à bien sa réforme, et non pas à discuter des enjeux de la réforme qu'il propose. Donc ça, c'est une dimension très importante de la fonction médiatique et des mauvais traitements qu'ils font subir aux mouvements sociaux. C'est-à-dire que les médias ont cette faculté de délimiter le cadre du débat et d'en exclure tout ce que, justement, les acteurs des mobilisations sociales voudraient y faire entrer. Ensuite, il y a évidemment d'autres procédés. Il y a la mise en exergue des violences des manifestants, qui va occuper, dès que la moindre... on a fait un article sur, je ne sais plus sur quel mouvement, il est dans le livre, sur des manifestants qui étaient entrés dans je ne sais plus quel siège social, qui avait renversé trois plantes vertes et cassé un écran de télévision. Alors c'était le saccage du siège social qui a occupé évidemment les antennes.
Vous parlez aussi de la chemise,
la chemise du PDG d'Air France déchirée, drame national, s'il en est, qui a fait la une de plusieurs quotidiens avec cette photo, etc. Donc, surexposition des violences des manifestants et, en parallèle, invisibilisation des violences policières, en l'occurrence. Voilà, pour quelques procédés traditionnels de délégitimation du mouvement social.
Oui, il y a aussi... on appelle le gouvernement à faire preuve d'autorité, par exemple. C'est-à-dire vous expliquez dans l'ouvrage que, en fait, les médias chuchotent à l'oreille des princes. Oui. C'est une de leurs fonctions, je dirais, préférées, privilégiées. Je ne sais pas ce qu'il faut dire.
En tout cas, c'est le rôle qu'ils s'arrogent volontiers. Effectivement. Alors, peu importe en fait qu'il conseille au gouvernement de faire preuve d'autorité ou au contraire d'ouverture ou de doigté, mais c'est surtout le rôle, c'est ce qui est important à noter ici, c'est le rôle qu'il s'arroge. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas là pour informer sur ce qui se passe, mais plutôt pour conseiller le gouvernement, pour éventuellement le réprimander sur telle ou telle erreur de communication ou de stratégie qu'il aurait fait. Et on perçoit ici la crainte qu'effectivement le gouvernement, par mauvaise stratégie, ne parviendrait pas à ses fins. Mais c'est assez révélateur, effectivement, de la mission qu'il a.
Oui, je précise que tout ce dont nous parlons est vraiment montré dans le livre à travers des citations qui sont tout à fait vérifiables dans les médias, les journaux, beaucoup de journaux mainstream en tout cas, tous même.
Oui, je crois que c'est un des caractéristiques du travail d'Acrimed, c'est vraiment de se fonder sur l'observation. L'observation, la reproduction de discours médiatiques, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a tendance à laisser passer. Nous, on aime bien faire pause. Relire, réécouter et quand on regarde dans le détail ce qu'on lit et ce qu'on entend d'une oreille distraite et qu'on laisse passer, quand on s'arrête un petit peu dessus, c'est parfois assez effarant.
Éloquent. D'ailleurs, 25 ans, c'est ce qui permet justement de suivre ce fil, en fait, et qui a permis de réaliser de mettre en évidence, en fait, tout ça, hein, parce que c'est pas évident si on n'analyse que une ou deux, en fait, réformes.
Oui.
Alors, vous montrez dans le livre comment le petit groupe de professionnels de la communication, apporte une parole dépolitisée, présentée comme objective, factuelle, parole qui en réalité a pour finalité de formater l'opinion publique. Qui sont ces personnes ?
Alors c'est l'ensemble du personnel visible des médias dominants, c'est-à-dire qu'il y a d'une part il y a les intervieweurs des matinales, des émissions spéciales consacrées quand il y en a à tel ou tel mouvement. Il y a d'autre part les éditorialistes. Alors, quand vous dites une parole dépolitisée, pour le coup, les éditorialistes, ils sont en général très très politisés. Ils défendent leur vision.
Oui, bon, c'est ça. Oui.
Après tout, c'est leur droit. Le problème, ce qu'on essaye de montrer, nous, c'est l'unanimisme et le fait que tous les éditorialistes des médias dominants. Alors, il y a peut-être quelques exceptions ici ou là, mais bon, je pense qu'on peut quand même dire qu'on montre avec un certain nombre de preuves que les voix dissonantes sont absentes de ces médias dominants.
Oui. D'ailleurs, vous montrez, vous analysez par exemple comment se passent les débats et des choses comme ça. Mais vous parlez des experts. Oui. De l'expertise.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est des experts qui
partout sur les plateaux, toujours présents.
Voilà, après.
Il y en a beaucoup en ce moment. D'ailleurs.
Oui, il y en a toujours. Il y en a de plus en plus, effectivement, peut-être, mais en général, ce sont des gens qui montent tel ou tel institut de réflexion, de conseil en stratégie, qui n'ont aucun titre universitaire sérieux, mais qui se présentent comme directeur de l'institut.
Les spécialistes.
Voilà, les spécialistes, les experts qui sont des experts pour médias fabriqués par les médias, en fait, qui tirent leur expertise de leur notoriété médiatique en réalité. Et ceux qui font partie de ces experts sont précisément tous.
À
la fameuse réforme.
Et voilà. Et vous parlez aussi des intervieweurs qui vont sur le terrain, et puis des stars de l'animation, parce qu'il y a aussi des émissions pseudo-politiques, etc. Tout ce petit monde, justement, qui tient le même discours. Qui tiennent le même discours.
Oui, alors les intervieweurs, on parle surtout. Alors il y a les intervieweurs qui vont sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui interrogent les mobilisés, voilà. Mais il y a aussi les intervieweurs, ce ne sont pas les mêmes, hein, les intervieweurs des grandes émissions de radio, des matinales. Et là, on essaye de montrer aussi la différence de traitement entre l'interview d'un ministre, l'interview de tel ou tel responsable politique en vue, et l'interview d'un syndicaliste, l'interview d'une personne mobilisée, d'un acteur du mouvement social, qui, dans un cas, le ministre, on aura des questions très aimable, très respectueuse, on le laissera parler, on lui coupera pas la parole, et à l'inverse, évidemment, le syndicaliste, on va lui demander des comptes. Mm-hmm. En réalité, c'est pas une interview, mm-hmm. c'est condamnez-vous les violences des manifestants, allez-vous, est-ce que votre objectif, il y a une introduction
de l'interview. Est-ce que vous allez calmer la grogne? Ça.
Est-ce que vous allez calmer? Est-ce que vous allez plonger la France dans le noir? Il y a une introduction d'un débat entre, enfin, d'une interview du responsable de la CGT, je ne sais plus son nom, qui m'échappe, mais par El Kabash, avec une introduction qui est hallucinante.
Oui,
c'est
j'ai
un
vu
véritable
ça.
Procès.
J'ai vu ça dans le bouquin.
C'est quand on le lit à tête reposée.
C'est extraordinaire.
On se demande comment c'est possible.
Mais on est surpris, hein, souvent surpris dans votre bouquin, et puis on se marre aussi parce que on se dit mais comment c'est possible, comment c'est pensable en fait de se comporter comme ça, avec des gens qu'on invite sur le plateau, qu'on va humilier, à qui on donne la parole quelques instants, avec un mépris, une arrogance. Enfin, il y a plein d'exemples dans votre livre. C'est incroyable, en fait. C'est en ça que ce livre est novateur. C'est que là, vraiment, vous permettez au public, au lecteur, de prendre conscience de l'ampleur du désastre, en fait. En fait, ça me fait penser évidemment à Pierre Bourdieu, cette affaire, parce que à son analyse sur la télévision qui a paru en 1996, Bourdieu qui distingue le débat, donc qui parle de la télévision, qui fait une analyse sur la télévision, et qui distingue les débats vraiment faux des faussement vrais. Oui. Et ces débats où on invite comme ça les vrais gens.
Un vrai genre.
Oui, il faut pas qu'ils soient trop nombreux. Non. Ça ferait tout de suite. Ça n'irait pas. Voilà. Et c'est vraiment ces débats, c'est vraiment ça en fait. C'est des faussement vrais.
Ah, il y a la distinction, effectivement, il y avait les débats vraiment faux qui réunissent des experts ou des éditocrates qui sont en réalité d'accord sur tout, avec des petites nuances. Et puis des débats vrais, faussement vrais, c'est-à-dire où on essaye de maintenir l'illusion de la pluralité, et donc il y a effectivement le représentant un en général, effectivement le représentant des contestataires, mais où par la structure même du débat, c'est la prise de parole, l'expression de cette contestation est rendue impossible par le fait qu'il est minoritaire en nombre, qu'il est isolé, qu'il a, à la différence des professionnels de la profession qui ont le verbe facile, qui savent parler, rebondir, répondre n'importe quoi à n'importe quelle question. Évidemment, la personne qui n'a pas ces codes, qui n'a pas cette maîtrise du discours, c'est pour ça qu'on parlait d'un univers de discours, quand on n'a pas cette maîtrise-là, et ce qui est en général le cas des acteurs leaders des mouvements sociaux qui sont précisément pas qui ont un vrai travail et qui sont pas toute la journée à discuter. On imagine
oui,
bien qu'entrer dans un studio de télévision
oui.
ou de radio, si on voulait le traiter à égalité, il faudrait lui prodiguer un traitement de faveur en réalité, l'aider oui. à exprimer sa parole,
une discrimination positive,
exactement, mm-hmm. pour rétablir le déséquilibre qui est donné dès le départ.
Oui, d'ailleurs, vous le dites dans le bouquin, vous dites les vrais gens qui se trouvent sur le plateau comme un chien dans un jeu de quilles, en mmh. fait. Et des experts très à l'aise, etc. Voilà, qui maîtrisent le langage, qui ont l'habitude d'être sur des plateaux avec le verbe facile, voilà. Donc, ces vrais gens, ou ces contestataires, ou ceux contestataires, l'élu, dirais-je, eh bien, on se comporte avec lui d'une façon absolument hostile, désobligeante, et c'est très frappant, parce que vous donnez, dans le bouquin, vous citez, et c'est vraiment intéressant et extraordinaire, en fait. C'est comme des arrêts sur image, en fait.
Oui, je parlais de faire une pause tout à l'heure, c'est ça qu'on essaye de faire dans les articles, dans ce livre, mais aussi dans les articles qu'on publie sur le site régulièrement. On s'appuie toujours sur la transcription des échanges. C'est la base de l'observation. Mmh. Parce qu'on peut avoir le tel ou tel sentiment à l'écoute, mais voilà, il faut s'arrêter, regarder précisément, regarder le temps de parole accordé à telle ou telle personne. On s'aperçoit, le travail avait été fait en 95, avec cette grande émission là sur le mouvement social, où il y avait en plateau les experts qui se proposait de réfléchir à la situation, c'était le terme employé, et puis en duplex, il y avait tel ou tel ensemble de grévistes qui pouvaient prendre la parole, et qui avaient, je crois, il y a le décompte dans le livre, mais de mémoire, c'est une quinzaine de minutes sur deux heures d'émission. Mmh. Et puis le reste, c'était les experts en plateau qui réfléchissent.
Et, tout ça est extrêmement... arrogant, c'est extraordinaire. J'ai dit tout à l'heure, j'ai prononcé le mot grogne, mais oui. en fait, il est dans le bouquin.
Oui,
et,
oui.
Et alors donc, ce mot grogne m'intéresse, puisque c'est quand même une métaphore animale. Oui. Et j'ai terminé votre bouquin, et puis je lis le lendemain un article du Monde qui parle des nouveaux mouvements, enfin des mouvements sociaux actuels. Et là, je vois le mot grogne écrit trois fois. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, c'est tellement vrai. Mais ça traverse vraiment tous les mouvements sociaux, en fait. Hein, mmh. Ou plutôt tout le discours médiatique, en fait, sur toute la réforme qui n'en finit plus, en fait.
Mmh. Oui, alors la grogne, là, ça, c'est une entrée d'un lexique. On avait rédigé cet article il y a déjà, je crois, en 2003. Le lexique journalistique, pourtant, de grève et de manifestation.
Oui.
Donc, voilà, c'est cette langue automatique du journalisme, avec la réforme, la méthode, la grogne, le front du refus, voilà. Ce genre de clichés journalistiques, mmh. de réflexes, qui sont autant de mots écrans, en fait, qui empêchent de saisir la réalité d'un mouvement social.
Oui.
Qui pose des mots qui sont autant de caches.
Absolument. C'est des écrans, en fait. Oui, vous utilisez, par exemple, vous parlez du mot ouverture, vous parlez du mot concertation, le mot négociation. Et ils reviennent tout le temps, en fait.
Oui.
Hein? Le dialogue social. Alors ça c'est extraordinaire, le dialogue social, parce que justement de dialogue social il n'y a point.
Voilà.
Mais en fait on est dans un langage orwellien d'une certaine façon. Oui. Il y a un effet de renversement permanent. Mais je dirais aussi d'ailleurs que le mot démocratie, de ce point de vue-là, quand il est utilisé dans certains médias, on se demande vraiment de quoi on parle, en fait.
Hein? Mais surtout quand on explique que les médias sont le pilier de la démocratie.
C'est ça. le quatrième pouvoir.
Voilà.
Hein.
Sauf qu'on ne saurait critiquer sans critiquer la démocratie elle-même, évidemment.
Clairement, oui, c'est sûr. Alors, oui, donc, vous montrez dans le livre. Non, je vais peut-être avancer un petit peu. Dans ce livre, donc, Les médias contre la rue, 25 ans de mobilisation, de démobilisation sociale,
et
pardon.
Et de mobilisation sociale aussi, mais...
Et de mobilisation sociale aussi. Acrimed ouvre un débat public qui fait de cette question des médias une question politique.
Oui.
Clairement.
C'est l'objectif.
Ça aussi, c'est très intéressant. Parce que, pour le coup, vous prenez le contre-pied de cette dépolitisation du monde, en fait. Qui fait de cette question des médias donc une question politique au service de toutes les composantes du débat social. Et cette question politique est indispensable à la vie démocratique. Et c'est en ça aussi, je pense, que ce livre est extrêmement intéressant et innovateur. Parce qu'elle pose, justement, elle montre, justement, que toutes ces questions sociales sont éminemment politiques. Vraiment. Voilà. Et je voulais vous poser une question à votre avis, un autre journalisme est-il possible ?
Mais oui. D'ailleurs, est-ce qu'on se... Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent à Acrimed. Donc la réponse traditionnelle, c'est que oui, un autre journalisme est possible. D'ailleurs, il existe déjà. Il existe déjà. Dans les médias dominants, ça peut arriver qu'il y ait quand même quelques îlots. Ils sont de plus en plus rares, certes, mais ils peuvent exister. Et alors, il peut exister aussi dans les médias dominants. C'est un encadré qu'on a mis dans le livre qui est assez amusant, et pas seulement amusant, mais c'est que, par exemple, pour couvrir une mobilisation sociale, on a des contre-exemples. On a, par exemple, les manifestations de policiers.
Qui
font l'objet d'un traitement journalistique très différent et beaucoup moins critiquable. S'ils sont critiquables d'un autre point de vue, mais c'est-à-dire que là, on a l'exemple d'une mobilisation qui parle des causes et non plus des effets, qui laisse parler les mobilisés, qui les écoute avec une oreille attentive et bienveillante, qui leur laisse du temps d'antenne. Voilà. Donc
c'est le contre-exemple.
C'est le contre-exemple, mais si c'est possible pour des manifs de policiers, on pourrait imaginer que ça puisse être possible pour d'autres mobilisations. Mmh. Bon, c'est un peu pour plaisanter, mais donc il existe quand même dans le et même pour des mobilisations du social, on a quand même, il y a quand même certaines émissions. Enfin, il faut pas tout non plus tout écraser. Il y a quand même des nuances. Même si, voilà, je pense que avant de parler des nuances, il vaut mieux parler des tendances massives. Et puis surtout, bah, évidemment, il existe, et de plus en plus,
une presse alternative.
Une presse alternative, des médias indépendants. Internet a évidemment permis le développement d'un autre journalisme, ou en tout cas, lui a offert un lieu d'accueil et de développement.
D'expression, bien sûr.
D'expression. Mais il va de soi que ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de soutenir les médias indépendants, les médias différents, les médias du tiers secteur. Nous, à Acrimed, ce qu'on défend, c'est que la transformation en profondeur du paysage médiatique et du paysage médiatique dominant ne peut pas passer que par le soutien aux médias indépendants. C'est évidemment indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut critiquer et transformer les médias dominants, c'est-à-dire lutter contre la concentration,
garantir le pluralisme,
défendre un véritable service de l'information et de la culture, véritable service public. Donc d'une part défendre le service public de l'information et pas celui qui existe, mais défendre un autre service. Disons qu'il faut le transformer aussi, parce que c'est pas parce que, enfin, pour le coup là, on en voit bien, on a des exemples dans le bouquin que entre le service public et le privé, le traitement médiatique des mouvements sociaux, on cherche désespérément
les différences. Il y a énormément
de
nuances. Voilà. Oui, mais il faut quand même dire avant la fin de l'émission quand même que tous ces médias dont nous parlons appartiennent quand même, sont tous dans les mains de grandes puissances privées,
de
milliardaires en gros, oui, évidemment. Donc,
ouais, il y a deux directions, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre la concentration des médias privés et puis défendre un service public, le rénover.
Un service public de l'information et de la culture.
Oui, c'est une des propositions d'Acrimed.
Oui, j'ai vu. Olivier, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de l'émission. Merci beaucoup à nos amis de la technique, Nicolas et Michel. Et merci aux auditeurs qui ont été là et qui ont suivi l'émission. Au revoir.
ravi. Je suis tellement amoureux que j'en ai l'air un peu con. Et tant pis. Je suis perdu dans ton cœur, mais alors là j'y vois rouge au tourbillon de ma peur. Du jour où faudra que je bouge, il paraît que plus on aime, plus ça peut nous faire du mal. Je vois là un sacré dilemme, mais tu me dis que c'est normal, qu'il faut profiter au mieux de la vie tant que c'est bon. Et moi je me dis je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con. Et tant pis. Je suis perdu dans ton corps, lors en avant la musique et au placard les métaphores. Moi y'en a vouloir qu'on nique, tant que t'as compris que je t'aime, on va pas faire du chichi, j'ai du mal à mon poème. Mais moi t'aimais pour la vie, j'ai pourtant fait de mon mieux pour t'écrire une chanson trop jolie. Mais je suis tellement amoureux que je fais que des airs un peu cons. Et tant pis. Je suis perdu dans ton nez qui hume ma croupe et à l'occasion m'épée. C'est l'inconvénient du couple, mais j'y gagne au moins l'oubli de cette terre puante et de ce monde pourri. Sous les parfums de ton ventre, j'oublie d'être trop sérieux, j'abandonne ma raison à ton feu. Je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con. Et tant mieux. Je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con. Et tant mieux. Je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con.
Un vieux complet de vieille savate, avec quoi on ne peut plus draguer. Un col roulé comme une cravate, un vieux pardingue pour se nicher. Un bout de chaussée à s'arrayer dans les vitrines où il y a que du vent. Un pauvre nuage qui va crever, c'est la retraite et c'est le printemps. Et ces pauvres gens qui font la queue pour des plaisirs qu'on peut faire voir, cet opium qu'on fume par les yeux dans les cinoches qui font le trottoir comme les tapins de publicité. Qu'on leur bastringue en papier peint, histoire de montrer du péché aux passants qui ont plus les moyens. Une vieille histoire à raconter à une nana qu'a plus de zizi, un petit carnet pour y compter des trucs qui valent pas un radis, une canne à pêche à dépister, de quoi faire une friture vite fait, le soleil qui est pas dégoûté. C'est la retraite et c'est l'été. tous ces pauvres gens qu'on voit traîner à la queue des allocations avec leurs mains à se rembourser, les engelures de la mauvaise saison, comme des rapaces qu'auraient plus de bec, des lions qui seraient faits péder, sans crinière, sans salamalec, avec un bout de griffe pour signer. Un vieux sapin pour faire son rond à l'hôtel de la dernière nuit, 10 mots latins pour l'addition, c'est pas de l'argot, mais ça suffit. Et puis le curé qui fait la manche avec son pote d'hier, il l'a. Il n'y a pas qu'au Guignol qu'il y a des planches. Il y en a aussi dans ces coins-là. Et ces pauvres gens qui font la queue pour mieux pousser les fleurs des champs se font deux trous dans leurs beaux yeux et de leurs lèvres font des dents pour mieux voir ce qu'on ne voit pas. Pour mieux baiser le rien de rien et rendre leur dernier repas celui dont ils n'ont plus besoin.
Llorona,
de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Thank you. ici des clac, clac, clac.
Vieille au discours raciste. Clac, tu se perds, clac, tu se perds. Clac, 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 tu se perds. Clac, tu se perds.